Bonsoir Myrine Pierre qui est avec nous en studio, mais à ce qu'il paraît qu'il ne va pas prendre la parole fait ne sortait pas bien. Ou bien les points de la rubrique Actu Livre pour ce dimanche a signalé le secrétaire de rédaction du plus grand quotidien francophone d'Amérique, le Nouveliste. Je vais parler de Lemoine Bono, qui est le secrétaire de rédaction de ce journal. Il sera en signature aujourd'hui, ce dimanche 21 juin, à 18h, pour signer son livre des éditoriaux pour instruire à Tenel Restaurant du côté de Brooklyn à New York. Livre en liberté, eh bien la 42e édition de la foire du livre en liberté est prévue pour le 27 et le 28 juin prochain, disons le week-end prochain, soit samedi 21 et dimanche 28 juin, c'est dans le cadre des 300 ans de la ville de Limbé que cette en fait, 300 ans de la ville de Limbé que la bibliothèque Georges Castra du Limbé organise cette 42e édition. L'invité d'honneur est l'écrivain Gary Victor. Académie créole, le jeudi 18 juin 2015, a lieu la cérémonie d'inauguration du tout nouveau local de l'Académie du créole haïtien. Donc, à signaler que la rubrique, en fait, le quotidien, le Nouveliste consacre toute une série de portraits, d'entretiens avec les académiciens, les membres de l'Académie du créole. C'est une rubrique intitulée « Connaître nos académiciens ». Le premier numéro de cette rubrique a paru le jeudi et vendredi dans les colonnes du Nouveliste. C'était le premier numéro avec le titre « Claude Pierre, la voix des masses créolophones ». Donc à suivre dans les colonnes du Nouveliste pendant les mois de juin, juillet et août. Donc, des portraits, entretiens avec les 33 académiciens de l'Académie du Créole. A signaler aussi l'apparition d'un article sur en fait, un article dans le cadre de la rubrique Un texte, une chanson. Les arbres du sud portent un fruit étrange. C'est un article aussi universel. Un article inspiré de la chanson Strange Fruit, un classique du jazz interprété par Billie Holiday à la fin des années 1930, une chanson qui parle de la situation difficile des Noirs aux États-Unis. C'est une chanson qui dénonce le racisme et la haine des Blancs envers les Noirs. Donc cette chanson, c'est ce texte qui s'inscrit dans le cadre des violences orchestrées sur les Noirs à Charleston du côté de Caroline du Sud aux États-Unis. Et puis l'appel à contribution de l'Aigle Littérature, donc le sixième numéro de la revue L'Aigle Littérature qui sera consacré à la littérature jeunesse. Le comité éditorial lance un appel à contribution, un appel à texte. Et pour tous ceux qui sont intéressés, donc la date limite d'envoi des textes est le 1er août 2015. Donc la revue attend le comité attend des comptes rendus de lecture des textes critiques qui mettent l'accent sur la littérature de l'enfance, le roman d'apprentissage, le roman de formation et les comptes des notes de lecture sur des textes de littérature jeunesse et des créations consacrées, des créations qui peuvent être soit des poèmes, des nouvelles ou de courts récits consacrés à la littérature jeunesse. Voilà, et ce qui met fin à la présentation de la rubrique Actu Livre, place à présent à Robert Charles pour sa chronique.
Je vous invite à vous abonner à la chaîne de
dans ce livre, Rolf parle du rapport de l'écrivain avec la société, avec la vie, avec tout ce qui environne cette étrange, je dirais, un autre écrivain. Je vais vous lire le tout premier chapitre, le titre du chapitre, qui crée normalement heure en bibliothèque. Alors, ça commence comme ça. Commençons par dissiper la vraie confusion entre l'amoureux du savoir et l'amoureux de la lecture, soulignant qu'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Un érudit est un enthousiaste sédentaire, solitaire et concentré sur sa tâche, qui cherche dans les livres le grain de vérité particulier qu'il veut à tout prix découvrir. Si la passion de la lecture s'empare de lui, ses grains s'amenuisent et lui filent entre les doigts. Le lecteur, au contraire, doit dès le début mettre un frein à son désir d'apprendre. Il retire de sa lecture des connaissances rendues lui facilement lire avec système. En quête de cela, afin de devenir un spécialiste ou une autorité, risque fort d'anéantir sa passion pour l'écrit pour la lecture et des intérêts. La lecture ne nous est facile de donner de l'homme studié une image qui à la fois lui rendra justice et ferait sourire de lui. Figurons-nous un personnage pâle et indistinct, en robe de chambre, perdu dans ses spéculations, incapable de soulever la gloire de la plaque du foyer, ou de s'adresser à une dame sans rougir. Ignorant les nouvelles du jour, quoique fort versé dans le catalogue des bouquinistes, dont il fréquente assidûment l'antre obscur, un personnage charmant, en contredit, dans sa revêche simplicité, même ne ressemblant guère à cet autre sur lequel nous allons porter notre attention. Car le vrai lecteur est par essence jeune, est un homme à la curiosité très vive, plein d'idées, ouvert et communicatif, pour lequel la lecture tient plus de l'activité physique vigoureuse au grand air que de l'étude en milieu protégé. Il peine sur la grande route, grimpe de plus en plus haut jusqu'à ce que l'atmosphère soit presque trop subtile pour pouvoir respirer. Pour lui, il ne s'agit pas du tout d'une quête sédentaire. Voilà un extrait de L'écrivain et la vie de Virginia Woolf, dans lequel Virginia essaie de faire établir une différence entre le lecteur amoureux de la lecture et le lecteur savant, le lecteur qui lit pour s'instruire, pour apprendre. Voilà ce qui met fin à cette dernière édition dans la série et la petite littérature. La semaine prochaine, nous allons vous apporter une nouvelle série. Dans le cadre de la merci et je reste avec vous pour moi.
Le vrai lecteur est par essence jeune. Merci Hubert Charles pour ce nouveau numéro de la chronique consacrée pendant les trois derniers mois à la critique littéraire par les textes entre Virginia Woolf qui est une figure importante, une écrivaine assez intéressante, importante de la littérature anglaise. L'écrivain et la vie, c'est un livre important aussi sur non seulement la critique littéraire, sur l'écrivain, la lecture, le rapport entre critique littéraire et chroniqueur et le journaliste. Littéraire, tout ça. Aujourd'hui, Hubert Charles, tu nous as parlé du rapport du lecteur peut développer avec le livre. Donc, c'est ça.
Oui, absolument. Le lecteur, il y a pour la rôle de type de lecteur. Le lecteur qui lit pour apprendre. Un amoureux du savoir, c'est quelqu'un qui cherche à au moins qui cherche des connaissances, des habiletés ou encore des savoir-faire, tandis que le lecteur amoureux de la lecture ne cherche absolument rien, sinon il essaie de...
Le plaisir, il cherche quelque chose quand même, sinon que le plaisir du texte.
Le plaisir du texte, certes, mais pas attirer un savoir quelconque ou quelque chose qui pourrait être utile dans une conversation.
ou encore dans le cadre d'un cours, par exemple. Là, c'est celui, le lecteur qui cherche, le lecteur savant, c'est celui, par exemple, un étudiant de n'importe quelle faculté qui lit dans le cadre de sa formation académique. Là, il s'inscrit dans la perspective, dans le cadre du lecteur savant. Ce qui importe pour lui, c'est le savoir,
la connaissance. C'est pas la lecture en soi.
Oui, la lecture comme développement personnel,
l'accomplissement de soi,
réalisation de soi, tout ça. Et la lecture pour lui a une fin utilitaire en premier lieu. Alors que l'autre lecteur, celui qui lit pour le plaisir, il y a une fin, certes, mais la fin est en soi.
Oui, bien sûr, ça me fait penser à Baudelaire qui disait que la poésie, parce qu'il peut être valable pour la lecture en général, c'est que la poésie n'a d'autre fin qu'elle-même. Mm-hmm. Et la lecture devrait être considérée de la même manière. La lecture ne devrait, avoir, ne devrait pas avoir de fin, comme tu l'as dit, utilitaire, qui pourrait faire bouger les choses. Mais c'est avant tout une passion.
Tout à fait. Donc là, je reviens à Montesquieu et je lisais tout à l'heure un extrait de son texte Pensées diverses, publié que j'ai pu trouver dans ses œuvres complètes. Il disait que l'étude a été pour moi le souverain remède contre les maux, les dégoûts de la vie. Il n'y a jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture n'ait dissipée. Quand on est triste et qu'on prend un livre, on déchire les pages, déchirées dans le sens où, et pas dans le sens où l'on abîme, mais qu'on lit, on fait des découvertes, on part et faire un voyage, tout ça. Donc c'est le meilleur moyen de dissiper le chagrin, de fuir la solitude, quoique la lecture pourrait être considérée comme une solitude essentielle dans le sens de l'enjour. Et donc la lecture tout de même a une fin, même si elle n'est pas pratique au prime abord. Voilà ce qui met fin à la présentation de la rubrique Le Livre, en fait, pas le livre de la semaine, mais la chronique de Robert Charles. Lilian Pierre ne va pas présenter sa chronique aujourd'hui. Elle souffre de maux d'oreille, c'est difficile pour elle de parler. Donc la semaine prochaine, les compagnons, les amoureux de cette chronique auront certainement la possibilité d'écouter leur rubrique. Donc l'émission Livre 9 continue sur Magique 9. Aujourd'hui, dimanche 21 juin 2015, c'est l'été qui commence. Nous sommes en plein pied en été. C'est le seul qui se dit, c'est le 21 juin. C'est la fête de la lumière, la fête du soleil aussi. Autant que je me rappelle bien, donc au solstice d'été, il est dit que c'est le 21 juin, c'est le jour le plus long de l'année, et le soleil, il y a ce qu'on appelle, il y a deux cycles. Là on est dans un autre champ, donc on ne va pas en parler, mais c'est le solstice d'été. Il y a le solstice d'hiver aussi, c'est en décembre. Aujourd'hui c'est l'été, il fait très 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 chaud, le soleil est à son zénith et la lumière va y avoir une foule, disons, tout un rayonnement de lumière sur la terre et partout dans l'univers. Mais nous autres, ce qui représente pour nous la lumière, c'est le livre, le mot, c'est la lecture. Donc on continue, on reçoit aujourd'hui. Et dans le cadre cet espace, cette volonté de faire jaillir la lumière, faire jaillir les connaissances qu'on reçoit. Et c'est une émission qui sera consacrée spécialement aux enfants, à la littérature jeunesse, puisqu'on reçoit l'écrivain, journaliste, chroniqueur culturel, Claude Bernard Serra. Donc, autour de cette, enfin, ces deux dernières publications, l'aveugle m'a ouvert les yeux et aussi la guerre des cerfs-volants. Donc, deux livres jeunesse et consacrés essentiellement aux enfants pour ceux qui commencent à lire. Donc, Claude Bernard Serrand, bonjour, bonsoir. Bienvenue à l'espace Livre Neuf.
Bonjour, bonsoir. C'est un grand plaisir d'être là pour parler de littérature.
Donc, Claude Bernard Serrand, on te connaît et surtout comme journaliste et culturel et responsable, pourquoi pas, même assistant responsable de la page culture du journal Le Nouvelliste, le plus vieux et quotidien de l'Amérique francophone. Mais tu écris aussi pour les enfants, pour les auditeurs qui nous écoutent. Est-ce que tu peux faire une présentation de Claude Bernard Serrand pour ceux et celles qui ne te connaissent pas assez, hein?
Claude Bernard Serrand, dans le domaine du journalisme, beaucoup de gens le connaissent comme journaliste de santé, dans la mesure où il aborde beaucoup la question sanitaire. Et Claude Bernard Serrand a 11 ans, et dans le Vue du quotidien et du journal Le Nouvelliste, auparavant j'étais au quotidien du Tard et l'Union. Mais avant, et le journalisme, j'ai, dans une première vie, été comptable. La quand j'ai fait la comptabilité, j'ai travaillé 10 ans, et c'est juste après que j'ai me lancé dans le journalisme. C'est par le biais du journalisme que je vais dans le monde de la littérature. Je crois que le journalisme n'est pas de la littérature, c'est une littérature, entre guillemets. Ce n'est pas de la haute littérature. Hein.
Ce n'est pas de la littérature pure.
C'est ça.
Mais quoi que, il y a beaucoup d'écrivains en fait du journalisme, de grands écrivains.
Oui. Je pense à Maupassant, à Flaubert, Zola.
Tout qui faisait des romans comme s'il faisait des articles, hein, parce
oui.
qu'il venait des investigations dans les mines. J'ai cru, par exemple, Germina, l'Assommoir, et qui fait le métier de journalisme, même parfois un métier d'écrivain.
Absolument. Par exemple, en parlant d'Émile Zola, et aujourd'hui, hier, je suis entré dans la bibliothèque, je découvre un roman de Émile Zola et c'est Le Ventre de Paris. Non, je n'allais pas lire Zola, sincèrement. J'ai lu la première page, juste, je ne voulais pas lire, sincèrement, je ne voulais pas lire. Mais le livre me tient. Je suis à la page 186, là où il décrit, il parle d'un homme qui a faim. Il parle d'un homme qui a faim, mais au milieu, et de marché, de nourriture. La manière dont Zola écrit cela, vraiment, c'est prenant, ça me tient. Et il était 10h du soir lorsque j'ai
reçu.
C'est quand même la 5e page.
Donc, c'est le 19e siècle, c'est le naturalisme, le réalisme. Donc, ces écrivains français, Zola, Balzac, Flaubert, Maupassant, oui. Et quand même, quand on a un livre en main, un livre de ces écrivains-là en main, donc on n'a pas envie de le déposer. Donc, on a cette envie de finir le livre, lire jusqu'à la fin, parce que c'est une écriture qui tient, et surtout avec toute cette description, qu'il y a des grandes descriptions qui font.
Et ce que je découvre chez Zola, et je le retrouve aussi chez Daniel Atelier, et ça me fait plaisir. Je pense qu'un écrivain, aujourd'hui je dois le faire, un écrivain haïtien, et je le trouve dans Atelier, là où il parle de personnages, il le compare à des peintres de son époque. Et ça fait un œil aussi à ce peintre. Il faut que le peintre vive, hein, et Daniel Atelier aime le faire, c'est-à-dire il parle du faux, d'autres peintres.
Il parle d'autres écrivains, de Gary Vicon, par exemple, qui l'a cité dans Tout bouge autour de moi.
Donc on a envie d'aller voir la peinture de tel peintre. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est très intéressant. C'est-à-dire, vous voyez que la littérature est à son époque, est assise. Le roman est assis dans son époque.
Mm-hmm. Oui, bien sûr, tu as bien fait de citer Daniel Laferrière, puisqu'on parlait des écrivains journalistes ou des journalistes écrivains. Lacroix, qui a fait de la littérature, et c'est une littérature, je dirais, journalistique, dans la mesure où Daniela Ferrière s'arme de son cahier et de sa plume, et
qu'on prend des notes
autour de lui. Et Claude Bernard Séan, dans ton livre également, L'aveugle m'a ouvert les yeux, c'est l'histoire d'un journaliste qui est parti faire un reportage dans une ville en province et qui a rencontré un aveugle, Sigurd Bott, qui lui a ouvert les yeux, d'où le paradoxe. Claude Bernard Séan, d'où vient ce titre paradoxal?
D'abord, c'est un titre qui était d'abord consacré dans la mesure où le livre se titrait Le sieur de chaussures aveugles m'a ouvert les yeux, et puis le manuscrit a été lu par mon voisin Pierre Vernet et décidé lors d'une conférence de l'éditeur du 12 janvier 2010. C'était là. Et il faut dire que lorsque Peggy, une de mes collaboratrices, n'est-ce pas, mais ça aurait été mieux, et au lieu de dire le sieur de chaussures aveugle m'a ouvert les yeux, là, m'a ouvert les yeux. Et finalement, j'ai accepté. Mais il faut dire que, c'était pas une nouvelle, et c'était d'abord, je devais faire une nouvelle journalistique, faire une nouvelle littéraire, une nouvelle journalistique, parce que j'étais allé à la fête patronale de Verrières. Et moi, en tant que journaliste, lorsque ce homme-là, j'ai rencontré, on m'a dit qu'il était aveugle, qu'il pouvait et me cirer les chaussures. Donc là, vraiment, et cela m'a happé, et cela vraiment a attisé ma curiosité. Mais et ce qui arrive, c'est que, et moi, en tant que journaliste, et vous savez que le journaliste est soumis à une certaine déontologie, il y a des questions que je vais me poser. À la fin, quand je suis allé faire mon reportage avec Lise et autres, et en revenant, je me suis dit que les gens, alors je me suis dit que je devais me poser certaines questions essentielles, des questions que se posent les journalistes. Alors, par l'anthologie, je n'ai pas écrit l'article, parce que je devais d'emblée poser des questions pour moi. Il y a des questions que je n'ai pas posées. Et c'est pour cela que l'année suivante, je suis allé enquêter et j'ai découvert ce que j'ai découvert, que le lecteur va pouvoir découvrir, et en mouvement, et l'aveugle m'a ouvert les yeux. Mais ce qui importe, c'est que je n'ai pas écrit la nouvelle qu'il y a de neuf en matière des formations journalistiques, mais des années plus tard, ce texte qui m'a invité, cette histoire qui m'a invité, va y refaire en fait. Et je vais faire quelque chose de littéraire. Et je me suis demandé est-ce que je vais écrire ou pas. Mais comme vous voyez, comme disait déjà Maria Reich, c'est-à-dire si vous ne pouvez pas faire autrement, le texte s'impose, alors que comme pas l'écrire, bien sûr, vous allez peut-être dynamique.
Donc tu as parlé de Pierre Vernet, ton voisin d'à côté, qui a lu le texte. Donc cela veut dire que c'est pas un texte qui date d'hier.
Non.
Donc, ça fait des années, puisque Pierre Vernet, il est mort dans le séisme de 2010.
C'est 2010. C'est un texte qui date de 2007, je crois. 2007, je crois. Et c'est quelque chose que j'avais laissé traîner comme ça. J'avais, comme beaucoup de textes, parce que vous savez, le journalisme, c'est un métier qui mange le temps de l'écrivain, parce que on est toujours le journaliste est l'historien de l'instant, pour reprendre la théorie de la famille. Il est toujours happé par l'actualité. Par exemple, il y a beaucoup de textes en chantier. Et de même que pour La guerre et sa volant, j'ai publié deux textes, là, pour un double plaisir des lecteurs. C'est un texte qui date d'il y a longtemps, d'avant 2010. En tout cas, j'ai failli perdre ce texte lors du tremblement de terre, parce que dans la maison où j'étais, le portable
la décombre.
Sous la décombre, il a fallu deux semaines, j'ai dû négocier avec toi, récupérer l'accord. Et Dieu merci, vous étiez là. C'est même que la Bible est dans le livre.
Il y a des textes, c'est resté tout frais. Et donc, Bernard Serrin, du journalisme, tu es passé à l'écriture. Donc, dis-nous, à la littérature, je voulais dire, à la littérature. Et ce qui est intéressant, c'est à la littérature jeunesse. Donc, dis-nous, qu'est-ce que ça te fait d'écrire pour les enfants?
Mais et avant de dire, je suis passé à la littérature jeunesse, pas du tout, hein, pas du tout, parce que avant, j'ai publié un recueil de nouvelles, rien que pour l'instant, c'est un recueil de nouvelles articulé autour de c'était en 2007, et j'ai participé à livre en famille avec le livre. Mais avant, j'avais écrit un recueil de textes humoristiques qui avait eu l'attention de ce livre. Lors, je n'étais pas journaliste, j'exerçais le métier de comptable à la maison de Rousseau. Comme je dis, j'ai passé 10 ans dans le domaine de la comptabilité avant de me porter au journaliste, et je vais aussi avoir fait ce côté-là, Donc, avant ça, et je suis entré par hasard dans la littérature de jeunesse avec la soupe au géant de la vie, c'est parce que j'avais rencontré Madame Paul, qui s'est discutée dans ce domaine, et tous les ans, à la fête du livre de jeunesse, c'est organisé par les éditions en un livre. On a dit, mais pourquoi on n'est pas écrit pour les enfants qui ont été intéressants? Donnez-moi un livre. Lui, j'avais écrit ça. Et j'avais écrit, il a rêvé, il y a eu 4 éditions de la soupe au Giron de la vie, et aussi, il y a des hasards qui vont souvent guider. Et par exemple, en ce qui a trait à la guerre des Cerveaux, ça ne devait pas être, un livre et consacré à la jeunesse. Ça ne devait pas être un livre. Ça devait être un article. Quand je suis pour l'avoir un journaliste, c'est parce qu'il y avait, disons, à l'époque, M. Chauvet, qui était un journaliste, organisait un événement qui s'appelle Vol au vent. Vol au vent, c'est grand événement qui est organisé tous les ans, à savoir des artisans qui fabriquent des volants. Et moi, je vais faire un article de ça. C'est un article que j'ai fait, que je lui ai écrit. J'ai écrit un petit article, on l'a trouvé trop long. On m'a dit que je vais raccourcir. Et là, je me suis mis sur mon ordinateur, et j'ai allongé encore l'histoire. Et puis avant, je me dis que je ne parle pas d'enfant. Pas question que j'écris un truc.
Et c'est devenu un livre.
Et puis, c'est pas ça. Et puis, je me suis dit que bon, pourquoi ne pas écrire un livre sur les cerfs-volants? Car moi, et enfant, j'avais adoré les cerfs-volants. Et puis voilà comment
c'est devenu un livre.
Comment c'est devenu un livre?
C'est la même histoire que Bernard Serrin, puisqu'avec ton livre L'aveugle, dans vos yeux, tu voulais faire un article au départ, et par souci d'objectivité ou de déontologie politique et journalistique, tu as fait un livre au lieu d'un article, et toujours avec la guerre des cerfs-volants, c'est la même histoire,
oui.
Tu voulais écrire un article. Est-ce que pour toi, écrire un livre serait ne pas réussir à faire un article, surtout écrire un livre pour enfants?
Je me suis posé, non, et c'est pas la même chose, parce que ne l'oublions pas, c'est pas la même chose, c'est pas, on n'entre pas dans la même dynamique quand on écrit un article, c'est pas la même chose. Un article, c'est pas un livre, que là, et ne l'oublions pas, c'est tout un monde que l'on construit, un personnage avec sa psychologie, aussi toute une mise en scène et aussi tout un écrit pour les enfants et on doit mobiliser toutes ces ressources dans un souci pédagogique parce que et l'enfant et c'est pas un adulte ou c'est un adulte pour venir et il y a une certaine manière de présenter la chose et voyez-vous et de le conduire et parce que et l'enfant lit bien sûr pour le plaisir mais l'enfant aussi elle lit pour se former et le livre et jeunesse ça faudrait être un beau livre on doit avoir ce souci esthétique quoi donc on a travaillé et par tout cela parce que en ce qui a trait à la des cerfs-volants et c'est toujours pour vous répondre c'est pas et l'antique ça a été une spéciale mais je ne suis pas resté dans la dynamique de l'antique parce que l'antique il y a certains principes et que ça respecte mais et le livre c'est disons c'est comme un monde que l'on construit c'est un monde que l'on acquit
ouais. Oui et que Bernard Sévan tout à l'heure tu m'as dit un mot qui a retenu mon attention surtout sur le mot esthétique et que tu parlais de littérature jeunesse et je vais peut-être te poser une question à laquelle puisque et c'est une question qui traverse depuis quelques semaines et quelques mois, puisque, comme tu le sais, la revue La Gaie Littérature consacre tout un numéro à la littérature jeunesse, puisque tout à l'heure, tu viens de dire esthétique, je voulais te poser la question, peut-être que tu aurais la réponse, est-ce que réellement il existe une esthétique de la littérature jeunesse au lieu d'une éthique? Puisque la littérature jeunesse essaie toujours d'apprendre aux enfants, est-ce que les enfants ont la capacité de décerner le beau dans un livre? Ou est-ce que le souci d'un écrivain jeunesse, c'est de transmettre un message, de transmettre une leçon morale, etc. Ou est-ce que l'écrivain jeunesse, je dirais, a un souci esthétique? Est-ce que tu veux ou tu voulais faire un beau livre?
Et vraiment, lorsque vous parlez d'esthétique, et ça dépend de là où je me situe, quoi. Je vois la sensation, quoi. Et cette sensation que l'on essaie de créer, la sensation du beau, d'abord les images que l'on construit, et le rythme du livre, parce que l'écriture aussi, c'est une architecture. L'écriture, c'est une peinture parce qu'il y a des couleurs qui vont faire sensation dans l'imaginaire d'enfant. On va travailler à ça et pour que ce soit beau, beau et dans le sens où cela va capter tous les sens de l'enfant. L'ouïe, la vue, même l'odorat, le toucher, quoi. Et le livre doit être un objet esthétique, parce que dans la mesure où, moi je suis dans la mesure de la sensation de beauté, on va avoir tout écrivain et tout artiste, écrivain et un artiste, doit avoir ce souci de faire du beau, de faire du beau. On faut avoir ce souci. Moi, et, en tant qu'écrivain, et j'ai et ça, et ça m'habite, parce que, et en ce qui a trait à la guerre des cerfs-volants, je vous ai dit que et avant 2010, j'étais déjà là. J'aurais pu et offrir le livre, mais j'ai mis du temps. Il y a, et, comment dire, des couches du temps. C'est-à-dire, j'efface, je lis, je relis, et il y a d'autres personnes. Il y a un temps, il y a un temps de l'écrire, et qui va recouvrer, qu'on va retrouver. Et la guerre des cerfs-volants. Mais maintenant, en ce qui a fait à la pédagogie, on parlait de pédagogie. Bien sûr, il y a une pédagogie, parce que, n'oublions pas, et la pédagogie, je vois toute une stratégie d'enseignement et pour mener. Parce que, n'oublions pas, comme disaient les Grecs, la pédagogie, savoir, peut-être déjà, et quelqu'un qui accompagnait, peut-être, on voit dans la Grèce antique, le pédagogue, c'était un esclave qui accompagnait un enfant à l'école et qui devait enseigner aussi. Donc, enseigner et un savoir, enseigner c'est un savoir qui est adapté et aux besoins et de cette audience qu'est l'enfant. Parce qu'il y a toute une philosophie et que l'on va y raconter. Et il y a toute une. Dans l'histoire aussi, l'histoire, ça a un message. Ça a un message que cela dégage. Mais on ne l'écrit pas dans le but simplement de faire passer le message. On n'écrit pas dans ce but-là. Ce n'est pas du journalisme ou quoi que ce soit. Non, mais cet objet, le livre, je vois l'histoire, on le conçoit comme un objet. Un bel objet. Et puis, on va passer un message, toute une philosophie, qui va guider aussi l'enfant.
Oui. Okay. Mais est-ce que dans l'enseignement, entre les trois livres de jeunesse, est-ce que tu as écrit la soupe au géant de Canadé, l'aveuglement vers les yeux, et la guerre des cerveaux, est-ce que tu te considères définitivement comme un écrivain entre guillemets jeunesse?
Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, bien, et quand j'ai exercé mon métier de comptable, Michel Rousseau, j'avais écrit des textes. C'est pour ça que je me dis que on va être surpris. Parce que moi, j'ai des textes là dans mon tiroir que je n'ai pas encore lu. Et puis tous les textes que j'écris, ce sont des textes anciens. Là. Tous les textes que je lis, ce sont des textes anciens. J'ai plusieurs textes, c'est des textes pour adultes. J'ai plusieurs textes. Bien sûr, je crois que en ce qui a trait à la littérature jeunesse, c'est un filon à exploiter. Parce que de mon temps, quand j'étais enfant, c'était surtout la métropole, Anderson, le comte de Fleury.
Astérix et Obélix, tout ça.
C'était des livres étrangers que je lisais. Aujourd'hui, il y a comme une explosion des littératures jeunesse, c'est surtout après les années 18, je crois, avec Deschamps qui va populariser ça, parce que vous allez avoir, disons, des ateliers d'écriture.
Marlène Etienne,
je prends un imaginaire.
Sabine Boisson.
Non, Boisson, ça revient là. Mais Boisson là, et vous dites.
Viviane, peut-être.
Audrey Droit-Fondrand, et tout ça, ce sont. Et puis il y a beaucoup. Il y a Trouillot qui vient entrer, dans ça. Les Trouillots, disons. Les Trouillots, la famille Trouillot. Il y a tout un tas d'écrivains haïtiens et d'éditeurs aussi. Donc c'est intéressant. Moi, je pense que c'est ça. Et l'aigle littérature est bien exploité et le filon de la littérature jeunesse. Par exemple, et le livre de Mélanie, le livre, tel objet, et qui parle de Daniel Ferrière. Il y a d'autres Moi, je pense que c'était intéressant. Moi, et je ne me ferme pas. Je ne me ferme pas dans une fiction, une littérature. Je suis ouvert. Je suis ouvert. Et bientôt, il y a un recueil de nouvelles consacrées sur les motocyclettes. Par exemple, je pense que les motocyclettes, c'est important. Et dans la mesure où l'on découvre cette épidémie, c'est une grande épidémie. Et la moto en Haïti, et j'en parle, et puis aussi j'ai un livre adulte qui va consacrer à la cité du poète Jérémie, et puis j'ai un livre sur les consacrés aux odeurs. Moi, et cela m'a toujours intéressé, les odeurs en littérature. Donc moi je suis odeur. Mais bien sûr, c'est un filon que je compte exploiter longuement.
Voilà, je vais lire de ton livre, Claude Bernard Séran, Aveugle envers les yeux, vendredi 8 septembre 2006, Verrette, destiné au sang. Je suis sur place pour un reportage sur la fête patronale de cette commune du département de l'Artibon. Les sujets sont partout, au coin de la rue, ils interpellent le journaliste. Ils captent l'attention de l'artiste. Voilà, ça commence comme ça, comme un article qui parlerait d'un article du travail et du journaliste, de l'emploi à faire. Tu as lu cet ouvrage, et également la guerre des cerveaux.
Oui, tout à fait. On va parler des cerfs-volants, mais ce sera juste après cette pause musicale. Et on va vous inviter à écouter Francis Cabrel, L'enfant qui dort. J'aurais bien aimé vous faire écouter Enrico Marcias, Ouvre-moi la porte, mais il y a un problème technique. Eh bien, nous nous consolons avec Francis Cabrel, L'enfant qui dort. rappelle que vous suivez Livre Neuf sur Magic 9, le 109. En studio avec nous, Claude Bernard Serin, journaliste culturel au quotidien Le Nonfiliste et également auteur de livres jeunesse. On a beau parler de L'aveugle m'a ouvert les yeux, Claude Bernard Serin, mais il y a aussi un autre texte sur lequel on aimerait attirer ton attention, c'est La guerre des cerfs-volants. Une histoire de cerfs-volants et des enfants et qui ont fabriqué des cerfs-volants. Et puis, généralement, c'est lors de la Pâque, autant que si je me rappelle bien, et qu'on lance les cerfs-volants. Donc, un livre, La guerre des cerfs-volants, est-ce que c'est un livre que tu as fait dans le cadre de la célébration de la Pâque?
Et il y a beaucoup d'éléments qui entrent dans ce livre. Il y a la célébration de la Pâque avec les jours de croix, on en trouvera un petit passage. Et c'est le temps aussi des fêtes païennes, comme par exemple le Rara, on en trouvera dans la guerre des cerfs-volants. Mais la guerre des cerfs-volants, c'est l'histoire, bien entendu, et d'un groupe d'enfants qui veulent jouer. Car jouer est un droit. Les enfants jouent à et lancer des cerfs-volants de toutes les couleurs dans le ciel. Or, il arrive que l'un d'entre eux, qui porte fâcheusement
le nom
et du nord, c'est Thompson, il veut avoir l'espace pour le ciel. C'est ça. Et il est, et, disons, mu par un impérialiste rage et de tout contrôler. Mais il fait la guerre aux enfants. Pas seulement pour remporter la victoire, pour la victoire, il fait la guerre pour remporter et pour remporter des résultats économiques. Car Thompson fait partie du club des chevaliers de Haut-Vent, qui est un atelier
où l'on fabrique des cerfs-volants.
Des cerfs-volants. Il voudrait qu'on achète
des cerfs-volants chez lui.
Chez lui.
Voilà.
Donc, or, il y a un autre jeune, il y a bande, et qui, lui, fabrique un très beau cerf-volant. C'est esthétique, on peut faire ces cerfs-volants de toutes couleurs, de toutes formes, on peut faire ça. Donc, c'est aussi cela. Mais la guerre des cerfs-volants, c'est aussi une allégorie et de l'histoire de la société qu'on présente aux enfants.
Donc, avec des bons et des méchants et tout ça, ce qu'on retrouve généralement dans beaucoup de livres pour enfants, dans les contes, moi je pense au conte de Bouki et de Balise, où il y a un méchant, un malin, un bon, quelqu'un qui est très intelligent.
Mais dans mon histoire, c'est nuancé,
oui.
Parce que, et d'abord, on va retrouver des gens solitaires, comme Ellie, qui veut faire cavalier seul, il va mener la lutte pour lui seul.
La fille, il y a une petite fille aussi.
Avant sa fille, il y a là, on parle de Marguerite et autres. Mais il y a Ellie qui veut faire cavalier seul, mais il va et se casser les dents. Mais à partir du moment où ils vont faire la solidarité,
ils vont se mettre ensemble,
ils vont remporter la victoire contre Thompson. Mais ce qui arrive, là où il va y avoir une paix heureuse, c'est lorsque les enfants. Et il lance à nouveau le cerf-volant dans le ciel avec des percussions, des soulements éoliens. Et ça va fasciner Thompson le méchant. Il va retrouver les enfants. Il va voir qu'il était blessé, il ne se sentait pas très bien à sa peau parce qu'il ne pouvait pas voir toute cette beauté. Maintenant, il est séduit par la beauté des choses.
Oui, donc là, Claude Bernard Serin, donc le message pour les enfants, c'est, si je comprends bien, c'est qu'il est toujours possible de construire un monde où il fait bon vivre, où l'on peut être ensemble, et tout ça, dans le communautarisme, la solidarité, tout ça. Donc c'est le message à envoyer aux enfants. Donc c'est comment apprendre à se mettre ensemble, comment... Et ensemble, on peut réussir, on peut réaliser ses projets, mais seul, C'est vraiment difficile, c'est ça.
Oui, c'est ça, parce qu'il faut, et il faut toujours aller vers l'autre, parce que, et dans moi, il y a l'autre aussi. Et le langage universel, c'est l'harmonie, parce que vous faites l'émission, c'est pas pour vous-même, et vous commencez et prendre des matériaux dans les livres, à faire des invitations, mais c'est pas pour vous-même, c'est pour les autres, c'est dans un esprit de partage, sur les ondes, c'est une vie qui est véhiculée et sur les ondes. Donc on est en communion avec un ensemble d'auditeurs, et c'est là que la société va gagner dans la mesure où l'autre ne devient pas une île, mais il s'ouvre vers l'autre.
Tout à fait.
Il partage.
Un message d'altruisme. Donc, et ça a été le cas avec Thompson, les enfants et la guerre des cerfs-volants.
Thompson souffrait aussi. Mm-hmm. Et donc, il y a toute. Et puis, dans le coin aussi, il y a toutes les structures psychologiques qui sont mises en évidence. Lorsqu'on voit l'égoïsme, c'est comme un chaos, le ça, quoi. C'est-à-dire que ce Thompson reste dans ce stade où il est coincé, où il est tourné vers lui-même. Mais il va se chercher aussi à travers toutes les péripéties de l'histoire, parce que les enfants vont se chercher. Parce qu'à un moment donné, les enfants ne vont pas se mettre ensemble pour résoudre le problème. Cette quête-là et de solidarité, on se cherche.
Donc, ces deux livres, Claude Bernard Serin, est-ce qu'ils sont disponibles en librairie?
Oui, c'est disponible en librairie. D'abord, il y a Madame du Comité Plus, Alain Charvel, qui distribue les deux. Et on va arriver sur un contrôle aussi. Et bientôt, il va y avoir également des signatures à Port-au-Prince, ainsi qu'en province. Et je dois vous dire aussi que c'est un livre qui se distribue à travers le réseau. Le réseau d'amis, c'est comme ça, comme vous le faites. Parce qu'il n'existe pas beaucoup de librairies à Port-au-Prince.
Deux ou trois.
Et il n'y a que deux ou trois. C'est à travers le réseau. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça.
Donc, Claude Bernard Serin, merci d'avoir répondu à notre invitation, puisque là, on est au terminus de l'émission. Donc, on a passé un bon moment ensemble. J'espère que le public, en fait, l'histoire, les enfants, surtout le sujet, ont suivi avec beaucoup d'intérêt ton intervention, en fait, ce n'est plus pour les enfants.
Quand vous parlez d'enfants, et de les enfants, vous êtes les adultes. D'abord, quand on a écrit, on a fait un livre pour son enfant. On le lit d'abord pour voir quel livre on offre à son enfant. Et par exemple, lorsque je lis Le Petit Prince, de Saint-Exupéry, bon, c'est un livre pour son enfant. Mais écoutez, lorsque vous voyez que la philosophie qui se dégage de ce livre, c'est très bon, et le matériau de ce livre, pour son bien personnel, de la même manière, je recommande Jonathan Livingston de Goéland, Richard Bach, un certain livre sublime, merveilleux, que c'est pas seulement les enfants qui doivent lire ce livre, qui vous dit d'aller toujours au bout de vous-même, d'aller toujours beaucoup plus loin, de se chercher, d'être en quête de liberté. Et c'est très beau ce livre, non seulement la matière de l'écriture, quelle écriture, et aussi et le message et l'énergie qui se dégage.
Voilà, donc on a reçu Claude Bernard Serin, et merci d'avoir prêté oreille forte. Il ne nous reste qu'à remercier Claude Bernard Serin d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci Claude.
Et merci, ça me fait plaisir, je pense que je reviendrai une autre fois dans cette émission livre neuf, hein, c'est pas pour parler de nouveautés. Il y a toujours du neuf. Quoi de neuf?
Donc, merci Claude, merci à vous, merci. Monsieur Charles, ça a été un plaisir puisque la semaine dernière on n'était pas présent.
Il y a une pause pour pouvoir rebondir les choses qu'on a fait. Ça va continuer avec la crise. On va avoir des difficultés, des gens intéressants. Ça va être un peu d'apporter des livres chez vous.
Myriam Pierre, donc, qui nous écoute au studio, ordonnée du studio, avec la radio, elle nous écoute, puisqu'elle ne se porte pas bien. Donc, à la technique, toujours l'infatigable Willem, Joseph, hein, et Robert Charles, et moi, Julien Saint-Pierre, et nous avons apporté cette émission. Donc, rendez-vous dimanche prochain pour une autre émission du même genre. Je rappelle que vous connaissez cette émission proposée par la radio Magic Mouth en partenariat avec l'association Lègue et Littérature à l'aide. Allez, portez-vous bien dimanche prochain. Au revoir. Machine.